énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
questions d'éthique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Délirium environnemental, pour vous divertir, mais surtout pour vous informer. On commence en première heure, comme d'habitude, par une revue de l'actualité. On vous parle de qualité de l'air, de changement climatique, d'OGM et bien, bien, bien d'autres choses. En deuxième heure, on s'entretient avec Monsieur Sam Hamad, ministre des Ressources naturelles au Québec, qui parle énergie, en fait, avec Patrick Bonin. Ça s'est passé la semaine passée, on vous en reparle. Et on termine par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Délirium environnemental, c'est le magazine radio d'information en environnement. C'est aussi une équipe magique avant tout. C'est Patrick Bonin, c'est Nicolas Mainville et c'est Hugo Lachapelle. C'est aussi Étienne Côté-Paluc à la régie et c'est aussi lui qui fait notre magnifique site Internet ainsi que Nicolas Milo qui sera là la semaine prochaine. Moi, c'est Sofiane Legendre. Et on commence sans plus tarder, messieurs, si vous le permettez, avec la revue de l'actualité, revue de presse cette semaine. Un bloc bien chargé pour commencer. On vous parle de qualité de l'air. En fait, Patrick Bonin, tu vas commencer à me parler de la cigarette.
Ben oui, je vais vous parler de la cigarette parce que c'est passé, en fait, une grosse étude qui est sortie aux États-Unis, au pays de George W. Arrêtez-le quelqu'un, Bush. Et ben une étude qui est parue dans le Journal of Occupational and Environmental Medicine qui nous révèle, et attachez-vous ou sortez de votre auto, faites quelque chose, que dans les bars, il y aurait jusqu'à 50 fois plus de particules cancérigènes, c'est ce que je voulais dire, qu'une route paralysée par la circulation, entre autres lorsqu'on est par choc à par choc. Et c'est assez inquiétant de voir que les taux de certaines particules cancérigènes étaient jusqu'à 15 fois plus élevés que la norme aux États-Unis. Suite à ça, évidemment, il y a beaucoup de réactions et l'étude a dû influencer, on parle au Canada, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba ainsi qu'en Saskatchewan. On a décidé qu'on fermerait justement les bars, non pas fermer les bars en entier, mais fermer les bars pour... On pourrait pas aller fumer dans les bars, tout simplement.
Donc on interdirait la permission de fumer dans les bars.
C'est ce que j'essaie de dire.
Mais on continue de vendre, ce produit-là continue d'être en vente libre dans tous les bons dépanneurs du Québec.
C'est définitivement un autre débat dans tous les dépanneurs du Québec. Et on sait qu'au Québec, on a simplement des restrictions partielles. Dans certains endroits, on n'a pas le droit de fumer. Donc, on s'attend peut-être à un mouvement de la part du Québec. En fait, dépendamment, par exemple, Toronto va avoir des lois. Donc, on a des lois au niveau provincial. Également, au niveau municipal, on a certaines lois. L'Irlande, par exemple, a tout simplement banni à la grandeur du pays.
Assez impressionnant. Il faudrait peut-être qu'on s'inspire de l'Irlande, entre autres choses, pour ce qui est d'interdire la cigarette dans les bars. Mais, ultimement, peut-être aussi l'interdire dans les magasins, en fait. Mais bon, allez, courage à tous ceux qui tentent d'essayer d'arrêter de fumer. Prochaine nouvelle, on parle toujours de qualité de l'air, donc qualité de l'air centrale au charbon. Nicolas Mainville, tu me parles de qualité de l'air aussi.
Ben oui, dans ce bloc qualité de l'air, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de fusionner quelques nouvelles. Vous savez qu'on essaie de patauger dans tout ce monde médiatique mondial pour vous chercher des belles petites nouvelles en environnement. Et puis, je suis allé en chercher trois sur l'impact environnemental des centrales au charbon. Vous savez qu'ici, au Québec, on ne produit pas vraiment d'électricité par rapport avec le charbon, mais aux États-Unis, c'est plus de 50% de l'énergie qui provient du charbon. On parle de 1100 centrales au charbon aux États-Unis, avec des répercussions environnementales assez flagrantes, notamment trois répercussions que je vais vous parler aujourd'hui. La première, qui est quand même assez inquiétante, je vais vous parler du dioxyde de soufre. Vous savez que le dioxyde de soufre est une des principales émissions des centrales au charbon. Et puis, on a appris cette année, en fait, la EPA, l'Environmental Protection Agency des États-Unis, nous annonce que les émissions ont augmenté de 4%. Vous savez que dans les années 80-90, tous les problèmes de pluies acides étaient évidemment à la une parce qu'on a découvert ce gros problème qui influençait la qualité des écosystèmes forestiers et des écosystèmes aquatiques. Avec ces émissions de dioxyde de soufre qui augmentent encore une fois, eh bien, on sonne une petite cloche en disant, écoutez, on avait déjà un programme de réduction du dioxyde de soufre pour s'assurer que l'acide produite par ces émissions-là, parce que vous savez, le dioxyde de soufre, une fois dans l'air, va former carrément de l'acide sulfurique. Une fois qu'il retombe dans les écosystèmes, perturbe les écosystèmes.
C'est ce qu'on entend par les plus plus acide.
Exactement. Donc, une augmentation de 4 % en 2003 laisse présager certaines défaillances dans les programmes de réduction. On pourrait faire un lien assez direct avec la présence de M. Bush, mais c'est pas écrit dans mon article, donc je le ferai pas officiellement. Je vais juste vous mentionner un chiffre quand même assez impressionnant. 2003, 10,6 millions de tonnes de dioxyde de soufre qui a été émis par les centrales thermiques au charbon aux États-Unis. Donc, évidemment, extrêmement alarmant. Je vais fusionner cette nouvelle-là avec une autre nouvelle qui nous sort des États-Unis et de la EPA. On annonce que 100 millions de personnes aux États-Unis en ce moment qui sont exposées à des niveaux dangereux pour la santé, point de vue particules fines dans l'air. Donc, les centrales au charbon, en plus d'émettre ce dioxyde de soufre-là, émettent des particules fines, des particules qui sont environ 30 fois plus petites qu'un brin de cheveux, qui vont aller se poser dans nos poumons et provoquer des problèmes à la santé, notamment des problèmes pour la naissance. On parle évidemment des problèmes de poumons et tout ça. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que il y a plusieurs villes, plusieurs régions des États-Unis qui ne respectent pas les normes d'émission de particules fines. Donc, il y aurait 100 millions de personnes en ce moment aux États-Unis qui sont exposées à des risques, à des niveaux trop élevés de particules fines.
Incroyable. On s'imagine aussi que ça vient vers nous ici au Québec à cause, entre autres, des vents.
Exactement. C'est pour ça que je veux vous parler de ça aujourd'hui. C'est parce qu'on est carrément dans l'axe Québec-Windsor. Vous savez que les vents dominants passent dans notre nez, sous notre nez, et puis on est exposé à ces contaminants-là, malgré qu'on ne produise pas d'électricité par rapport au charbon. Dernière chose qui nous intéresse aujourd'hui, qui en fait nous affecte un petit peu plus, le mercure. Vous savez que le charbon est une source de mercure importante. Eh bien, en Ontario, on a augmenté la production ou l'émission de mercure par les 5 centrales au charbon qu'on a en Ontario. Malgré les gros efforts qui sont faits en Ontario depuis plusieurs années, eh bien, les centrales au charbon continuent à émettre. Donc, on a augmenté de 16 % entre 88 et 2001. Très inquiétant.
Très inquiétant, sachant que le mercure est un neurotoxique puissant, donc qui s'attaque à plein de fonctions humaines qui sont très liées à la santé. Malheureusement, on s'arrête ici deux petites secondes, puis on revient au retour, on complète justement toutes les questions de qualité de l'air. This is it. De retour à Delirium environnemental, je vous rappelle que c'est toujours possible d'aller écouter des émissions qui sont archivées sur le site Internet, ainsi que lire les articles de journaux qui nous servent à faire ces revues de l'actualité. Le site Internet se situe au www.radiodelirium.net. On continue à parler dans la revue de l'actualité de qualité de l'air. On a appris quelque chose d'assez paniquant. 46 des 50 gros pollueurs sont des centrales électriques. Patrick Bonin, tu nous parles de ça?
Ben, c'est une étude, un rapport de la Commission de coopération environnementale qui regroupe les trois pays, soit le Canada, les États-Unis et le Mexique, bien sûr. Ça a été créé dans le cadre de l'ALENA. Et ils sortent une étude, normalement, tous les années ou biannuelle, dépendamment. Et cette étude nous révèle effectivement que les plus grands pollueurs en Amérique du Nord, 46 des 50 plus grands, sont à l'origine de 50 % des substances toxiques crochetées dans l'air. Ce sont des centrales thermiques au charbon. C'est assez paniquant. Vous irez voir, on va mettre sur notre site web, justement, le lien avec cette étude-là. C'est très intéressant. Vous pouvez également faire des recherches personnalisées sur les différentes substances chimiques par établissement, par secteur d'activité, par région géographique, donc retracer qui sont les plus grands pollueurs dans votre coin. Petit point positif, entre 98 et 2001, les rejets dans l'air ont diminué de 18 % à l'échelle nord-américaine.
Ben, heureusement que tu finis sur une note encourageante, parce qu'autrement, j'aurais dit tout le monde arrêtez de respirer.
Et Hugo Lachapelle, le plus gros pollueur au Canada, la centrale Nanticoke d'Ontario.
Power Generation. En Ontario. Hugo Lachapelle, tu nous parles aussi de qualité de l'air, mais maintenant on se transporte de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique.
Eh bien oui. En fait, j'ai tiré cet article-là d'un journal qui s'intitule The Post, un journal de Zambie, et ce n'est pas seulement à propos de la qualité de l'air, mais bien aussi à propos de la qualité de l'eau et des sols, en fait de la pollution en général. Durant un atelier de dissémination d'informations en Zambie sur les polluants organiques persistants et les BPC, il y a un groupe de chercheurs qui a mis en garde les autorités publiques. En fait, on dit que l'émission continu de polluants organiques persistants pourrait aggraver le problème de sida en Afrique parce que la plupart des polluants ont la capacité d'affaiblir le système immunitaire humain. Et donc, pourquoi on parle de sida? Ben, c'est parce qu'en Afrique, vous pouvez imaginer que plusieurs millions de personnes sont touchées par ce virus-là et meurent chaque année. Et pourquoi on lie le sida à la question des polluants de l'air et des autres polluants? C'est parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'un système immunitaire affaibli est plus susceptible de contracter le virus parce qu'il est affaibli. Et pour les gens qui ont déjà contracté le virus, le système immunitaire plus affaibli va faire en sorte que les gens vont probablement mourir plus rapidement. Donc, les effets dégénératifs du sida vont arriver plus vite. Alors ça nous rappelle vraiment que, en plus des maladies causées par la pollution, on a de plus en plus de preuves que les polluants peuvent aggraver d'autres conditions de santé déjà existantes.
Donc, une autre bonne raison d'intervenir sur, entre autres, les sources d'énergie qu'ils utilisent à cet endroit-là.
Exactement.
Dans les solutions, justement, peut-être...
Et les produits.
Oui, tout à fait. Peut-être rappeler, justement, l'utilisation du charbon ou du bois comme source d'énergie, puis de tous les impacts en cascade que ça peut avoir sur la santé des populations, la santé ben, physique, bien sûr, mais aussi la santé au niveau social.
Et j'ajouterais même l'usage du condom!
Ça serait peut-être une source de pollution, en fait. Ça fait des résidus de latex dans l'environnement, ça, non?
Et oui.
Autre chose qui est à voir, si vous permettez, on va aligner tout de suite. Il se passe de belles choses en Californie. On s'est donné des outils pour intervenir. Hugo Lachapelle, c'est également toi qui me parles de ce qui se passe en Californie. Oui, je te prends de court, mais voyez-vous, c'est beau, l'adaptabilité.
Eh bien oui, en fait, il y a Monsieur Schwarzenegger, le Terminator lui-même, qui a passé à l'action cette semaine. Il a signé près de 25 mesures dites écologiques.
Wow.
Alors, entre autres, je vous mentionnais en vrac, là, il a parlé d'établir un programme de conservation de la Sierra Nevada. Non, en fait, il est établi pour protéger la faune et la flore des montagnes. C'est bien beau, mais aussi l'aquifère souterrain qui recèle la plupart des eaux douces de la région.
Ou les 2-3 centimètres qui restent dedans.
Ouais. Il a aussi créé un conseil de protection des océans, mais ça va se faire au niveau du cabinet du ministre, donc un conseil de haut niveau. On parle aussi de prohiber la décharge d'eau grise, des eaux de vaisselle et de douche des vaisseaux de croisière commerciales.
Yeah.
Et on a accepté aussi de réviser les normes de qualité de l'eau pour qu'ils protègent les enfants. Pourquoi les enfants? C'est parce qu'on sait qu'ils boivent beaucoup plus d'eau que les adultes en proportion à leur taille et parce qu'ils métabolisent et éliminent les polluants beaucoup plus lentement que les adultes. On veut donc utiliser les propriétés métaboliques de la taille des enfants dans l'élaboration des normes. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vraiment, Schwarzenegger, je pense que la chose la plus importante qui a passé cette semaine, c'est tous les projets de loi controversés sur l'efficacité énergétique des automobiles et les mesures anti-pollution. Donc, les propriétaires de voitures qui ont une efficacité de moins de 6 litres au 100 km vont pouvoir désormais utiliser toutes les voies réservées au covoiturage.
Wow.
Et ce, même s'ils sont seuls dans leur voiture. Ça veut dire en fait qu'il y a seulement les véhicules hybrides fabriqués par Honda et Toyota présentement qui se qualifient pour cette mesure-là.
Mais c'est un bel incitatif justement à l'achat de ces véhicules-là.
D'autre part, oui, tout à fait. D'autre part, il y a un nouveau règlement qui va faire en sorte que les producteurs automobiles vont devoir couper leurs émissions de dioxyde de carbone de 25% dès 2009. Peut-être même jusqu'à 36% en 2016. Et tout ça, c'est des mesures qui ont été décriées par plusieurs, dont certains gros lobbies, dont Jay Leno, le grand collectionneur d'auto qui fait un show à la télévision le soir, et le PDG de Ford.
En fait, Jay Leno, il est pas d'accord.
La réponse de l'industrie, c'est on n'a jamais eu à développer l'efficacité énergétique de nos véhicules à ce rythme-là. On n'est pas capable de le faire et ça va nous coûter. Les véhicules vont donc coûter 3 000 $ de plus à vendre.
Juste intéressant de se rappeler que notre ministre de l'Environnement au niveau fédéral, Stéphane Dion, a dit que ce serait intéressant pour le Canada de suivre justement ces lois-là d'émission de la Californie de façon à doubler le nombre de personnes qui seraient concernées par la même loi avec le Canada. Donc, un rapport de force. Et Monsieur Dion, suivez vos paroles parce que la Californie a décidé de le faire.
Puis parce que nous, on vous suit. Hugo Lachapelle, Patrick, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce qui se passe là-bas en Californie, mais plus proche d'ici aussi. Ici, on n'a toujours pas de programme d'inspection des véhicules, ni lourds, ni légers. Vous vous souvenez, on en parlait la semaine passée parce que la QLPA a fait une mise en demeure.
Mais qu'est-ce que la QLPA?
L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Plus tôt ce matin, je me suis donc entretenue avec M. André Bellil, le président de cette association-là, donc de la QLPA, qui, suite au décès d'une petite fille en décembre 2003, donc le 15 décembre 2003, ont fait une mise en demeure au ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair. Alors, il nous explique tout ça, on l'écoute tout de suite.
Malheureusement,
Il y a eu le décès tragique là, de la petite Annabelle Deslauriers là, de 16 mois. À notre avis, c'était des intoxications et un décès qui était directement imputable au mauvais fonctionnement du système d'échappement et système antipollution des deux véhicules en cause. Il y avait 8 personnes dans 2 véhicules, 2 adultes, 6 enfants. Et nous, après tout le travail qu'on a fait pour voir est-ce qu'on implante un programme d'inspection d'entretien des véhicules automobiles, ben on avait là la preuve de la nécessité d'implanter le programme. On aurait pu sauver la petite Annabelle et les intoxications des 7 autres personnes si le programme avait été mis en place.
Donc, c'est suite à cet événement que vous faites cette mise en demeure?
Oui, tout à fait. Parce que là, il faut bien comprendre, il y a un long historique dans ce dossier-là. Tout d'abord, en 1986, on a écrit dans la loi que tout véhicule sur la voie publique au Québec devait être muni d'un système de catalyseur permettant la réduction des émissions polluantes de NOx, COV et de monoxyde de carbone aussi. Sinon, si le véhicule sur la voie publique ne rencontrait pas cette obligation-là d'avoir un système antipollution en bon état de fonctionner, le véhicule n'avait pas droit sur la voie publique et son propriétaire était passible d'amende. En plus, la loi prévoyait que si un établissement, soit un garage ou un atelier de mécanique, enlevait consciemment le catalyseur, ben eux aussi pouvaient être passibles d'amende parce qu'on voulait protéger la santé des gens. Par contre, depuis 86, on n'a jamais appliqué la loi et on a à plusieurs reprises dit qu'on implanterait un programme d'inspection d'entretien justement pour protéger la santé des gens, mais après 16 ans, ben il n'y a jamais rien qui s'est fait.
Donc, en septembre 2004, vous décidez de faire une mise en demeure au ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair. Et puis, en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que c'est une mise en demeure?
Ben c'est une prise de position formelle disant au gouvernement il y a assez d'éléments en tout genre, que ce soit la santé des gens, les engagements formels que le gouvernement a pris et qu'il n'a pas respecté, les problèmes de pollution qui augmentent parce que bon la qualité de l'air à Montréal ne s'améliore pas dans le corridor Windsor-Québec. Alors pour toutes ces raisons-là, c'est une prise de position formelle disant maintenant on a assez viré autour du pot. On a assez promis toutes sortes de choses qu'il faut passer à l'action. On commence à compter les intoxications et les décès. Et des décès par intoxication au monoxyde de carbone, là, ça arrive juste où il y a des parcs automobiles en très mauvais état. Là où il y a des programmes d'inspection, c'est la première chose qui est vérifiée, le fonctionnement du système d'échappement pour éviter ces problèmes-là. Ben, parce qu'on ne l'a pas fait, on condamne des gens ici. Alors nous, on dit, c'est inacceptable. La santé des gens doit passer bien avant nos visions politiques.
Et donc, c'est une procédure légale que vous avez entamée. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite?
Bon, là, on a donné un délai au ministre de l'Environnement parce qu'on voulait agir avec fair play aussi. Parce qu'il faut comprendre que le ministre Mulcair hérite... Que le ministre précédent, M. Boisclair, a fait totalement dérailler pour ne pas avoir à le présenter devant l'opinion publique avant les élections... avec calcul politique. Maintenant, nous, on a informé le ministre Mulcair, qui hérite de ce dossier-là, qu'il doit passer à l'action, implanter le programme d'inspection pour les véhicules lourds et les véhicules légers. Sinon, on devra entreprendre des recours juridiques sur de nombreux points qui pourraient nous amener sur la scène internationale ou nous amener carrément en cours pour s'assurer ici au Québec qu'on respecte les engagements et qu'on protège la santé des gens. Donc, plusieurs possibilités de recours juridique. Maintenant, tout ça va se confirmer ou se préciser, si vous voulez, d'ici les prochains jours.
Bien, je vous remercie beaucoup. Peut-être un mot en terminant?
Oui, ben il faudrait que tout le monde pense à vérifier leur véhicule, et je pense surtout aux jeunes qui ont des enfants, vérifier si le système d'échappement n'est pas perforé et qui laisserait entrer des gaz dans l'habitacle, parce que les intoxications qu'on a connues, ben c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Alors il faut vérifier le fonctionnement du système d'échappement et antipollution pour la sécurité de tous.
Monsieur André Bellil, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Merci.
Bonjour. Mon nom est Bill Ford, arrière petit-fils de Henry Ford et président de la Ford Motor Company. Ford veut devenir une entreprise verte. En 2005, on va faire 20 000 véhicules sport utilitaires hybrides. soit 6 dixièmes des 1% de tous nos véhicules. Et wow! Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Agence de protection environnementale des États-Unis nous a classé le pire constructeur automobile en matière de consommation d'essence, et ce depuis 2000. Depuis 5 ans, on est donc classé le pire des constructeurs automobiles, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir, on veut devenir vert, mais il y a du chemin à faire avant de devenir vert. Ford, on peut pas faire pire. Merci beaucoup.
Ford Mustang.
Les platanes. À gauche.
Gang.
À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet.
Vous écoutez toujours Délirium Environnemental. Non, monsieur Ford, arrêtez. On n'en peut plus. N'en jetez plus. La cour est pleine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à monsieur André Bellet de la QLP d'avoir répondu à nos questions. On suivra ce dossier-là de très près. L'Institut Fraser, lui, suit la qualité de l'air, en fait, fait une évaluation de l'état de la qualité de l'air en milieu urbain. Il paraît que la situation partout au Canada est accablante. Nicolas Mainville, qu'en est-il?
J'aime l'adjectif.
Accablante, pas accablant. C'est beau.
Mais bon, ça se détériore rapidement. C'est une étude qui est sortie cet été. On n'a pas eu le temps de vous en parler, fait que je le plug maintenant, vu qu'on a un gros bloc qualité de l'air. Ben oui, en fait, on parle d'ozone troposphérique. Vous savez, il y a l'ozone atmosphérique et troposphérique. L'ozone dans l'atmosphère nous protège des UV du soleil, tandis que celle au sol endommage nos poumons et notre santé. Et puis, bon, le rapport de l'Institut Fraser dit qu'il y a des taux d'ozone troposphérique qui dépassent en moyenne de 30 % les normes gouvernementales dans les grandes villes canadiennes. Donc, évidemment, quand même assez accablant. D'autant plus qu'on note une augmentation des niveaux d'ozone troposphérique, encore une fois, de 32 % entre 1975 et 2001. Donc, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il y a une détérioration de la qualité de l'air par rapport à ce polluant-là, mais que c'est une détérioration qui est extrêmement rapide.
Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé des travaux de l'Institut Fraser. Maintenant, tu nous parles d'autre chose. Vous savez, pour ce qui est des changements climatiques, le protocole de Kyoto sont là un peu pour intervenir. On parle de gaz à effet de serre. En fait, dans nos façons de calculer, il paraîtrait qu'on s'est gouré, mais royalement, on pense que l'Arctique est un puits de carbone et finalement, peut-être pas. C'est toi aussi, Nicolas Mainville, qui nous en parle.
Ben oui, il y a une couple de fonctionnaires chez Environnement Canada qui ont probablement ressorti leur calculatrice parce que là, on change le calcul. Il y a une grosse étude qui a été publiée dans Nature cette semaine qui nous montre que la toundra en Arctique, qui était considérée dans tous nos calculs de sources et d'émissions et de puits de carbone, vous savez que c'est le centre du protocole de Kyoto, comment de carbone qu'on émet et combien qu'on en capte, eh bien l'Arctique a toujours été considéré comme un puits de carbone. Donc le carbone s'accumule en Arctique, et eh bien ce qu'on a découvert, c'est qu'au contraire, maintenant que l'Arctique est en train de fondre de plus en plus, est en train de se réchauffer, eh bien même si les plantes grandissent et fixent du carbone grâce à la photosynthèse, mais la décomposition des plantes dans cette région-là émet plus de carbone qu'elle en capte. Donc, ce qui change complètement la donne pour Kyoto, pour le protocole de Kyoto au Canada. Si on se retrouve avec une source additionnelle en Arctique, eh bien, on est un petit peu dans le pétrin. Et peut-être que ça va pousser certains à peut-être favoriser certaines énergies non renouvelables ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une étude qui lance, je dirais,
un pavé dans la mare.
Et voilà.
Voilà. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Nicolas Mainville. Avant de poursuivre, peut-être on est en route vers Kyoto, même si nos calculs pour y arriver sont peut-être pas les bons. Les Canadiens et Canadiennes appuient la mise en œuvre d'un plan de réduction des gaz à effet de serre pour les entreprises. De quoi ça consiste, Patrick Bonin?
Ben, c'est autant applicable aux Canadiens et Canadiennes qu'aux Québécois, Québécoises. Et c'est l'Institut Pembina d'Ottawa qui a fait justement un sondage qui nous révèle que 80% des Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises appuient la mise en application du plan fédéral. Parce qu'on a un plan, imaginez-vous, au Canada, on n'a pas entendu parler, mais oui, on a un plan pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce plan-là, il s'attaque aux grandes entreprises, entre autres, et aux petits émetteurs, les grandes entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et les plus petits, soit industriels ou résidentiels ou le transport, entre autres, qui émettent, mais à plus faible intensité, si vous voulez. Et il y a une grande différence. C'est intéressant de voir que les grandes entreprises sont forcées de diminuer de 15 % leurs émissions, tandis que les petits émetteurs, eux, c'est de 30 %. Eh bien, Canadiens. Justement, 40% des Canadiens disent que une réduction de 15% pour ce secteur-là qui aimait beaucoup, c'est correct. Puis il y a 40% des Canadiens qui disent que dans le fond, on devrait leur en demander plus. Étonnamment, les Québécois à 50% disent, ben là, on devrait leur en demander plus. Donc on voit encore une fois que les Québécois sont pour Kyoto. Ben non, c'est plate, mais c'est marqué sur mon texte. Et justement, Monsieur Martin, qui est notre premier ministre fédéral, eh bien, le monsieur de cette étude-là, Matthew Bramley de l'Institut Pembina, dit qu'il va falloir livrer la marchandise, Monsieur Martin, parce que si on n'a pas d'obligation au niveau fédéral de se forcer, eh bien, personne ne va arriver à ça. Et 15%, c'est pas beaucoup.
Tu me feras pas croire qu'il n'y a pas de la place pour trop dans leur délire. Ils ont oublié l'avenir. Partout j'entends les gens qui toussent. Viens pas me dire que la terre est trop petite. Tu me feras pas croire qu'il n'y a pas de la place pour trop dans leur délire. Ils ont oublié l'avenir. Regarde jusqu'où ils nous poussent. Laissons cours à la nature de pouvoir suivre son cours. Ils se servent dans la terre comme si c'était un carrefour. Et ils croient qu'il y en aura toujours. Mais un jour, la nature a ses forces qui s'épuisent lentement. Les hommes ont péché chaque jour par la gourmandise. Ils sont en train de faire une très grosse bêtise. Ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Et la terre veut pas fonctionner comme une entreprise. Les bénéfices ne sont pas sa seule devise. Les hommes sont fous, ils pêchent par gourmandise. Et tout ce qu'ils trouvent, ils le dévalisent. Y'a pas à me dire que la terre est trop petite. Tu ne crois pas croire. Avec de la dynamite, c'est eux qui vont nous tuer, non pas un météorite. L'important est de préserver l'endroit où tu habites. Viens pas me dire que la terre est trop petite. Tu ne feras pas croire qu'il n'y a pas de la place pour tout dans leur délire. Ils ont oublié l'avenir. Regarde jusqu'où ils nous poussent. Viens pas me dire que la terre est trop petite. Tu ne feras pas croire qu'il n'y a pas de la place pour tout dans leur délire. Ils ont oublié l'avenir.
Respecte les arbres.
Les hommes sont fous, ils veulent se suicider. Ils crament les bénéfices de milliards d'années.